Bonjour, bienvenue à Point de vue, Boris Chassaigne qui vous accompagne. Au sommaire aujourd'hui, l'organisme House to Home ouvre ses entrepôts aux réfugiés de la région d'Ottawa.
Ah, je suis trop contente.
Je suis très contente.
D'avoir une maison vide, ça pousse vers une dépression.
Une cabane à sucre urbaine détruite par les flammes renaît de ses cendres.
Pour certains, c'est la maison des ours. Pour d'autres, c'est la cabane à Mario. C'est un point de rencontre, ça c'est sûr et certain. C'est un lieu magique, c'est un lieu enchanteur, c'est un lieu merveilleux pour beaucoup d'enfants. Et puis, c'est un bel endroit là, pour se sucrer le bec. C'est sûr qu'il y a de l'émerveillement.
Au Nouveau-Brunswick, le projet de loi C-37 du gouvernement de Blaine Higgs soulève l'ire des minorités francophones et des partis d'opposition.
Avec le présent gouvernement que nous avons, nos attentes étaient un peu plus basses qu'à l'habitude. On ne s'était jamais imaginé un projet de loi épais de 4 pages qui, somme toute, est très clairement un manque de vision de la part du gouvernement.
Ils ont fait ensuite un peu de tourisme au Cap-Breton pour ensuite prendre la direction de l'Ouest pour vous parler de plaisir d'apprendre une espèce d'université de 7 jours créée pour les francophones de 50 ans et plus. Ceci et plus encore à Point de vue.
Suivez-nous sur Twitter, @CanadaLJI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.
Bonjour, merci d'être avec nous. Imaginez être tout juste débarqué dans un pays dont vous ne savez presque rien, avec pour seul bien ce que renferme votre valise. Vous êtes là à devoir relancer votre vie entière. Imaginez ensuite que vous pouvez entrer dans un entrepôt plein de meubles et de biens de première nécessité et être en mesure de les étiqueter à votre nom en vue d'un nouveau départ. Eh bien voilà ce qu'offre l'organisme House to Home aux réfugiés de la région d'Ottawa et dont l'entrepôt de près de 10 000 pieds carrés situé dans une ancienne épicerie et pour eux, une véritable caverne d'Ali Baba. L'organisme est tout jeune, il a été mis sur pied par Susie Shore Sauvé en 2020. Elle avait alors transformé son garage en un bazar à disposition des réfugiés. Aujourd'hui, Susie assume la gérance de ce projet. Elle aide environ 500 familles de réfugiés à s'installer dans leur nouveau pays d'accueil. Un de ses employés s'appelle Assad Rahimi. Il est arrivé au Canada il y a 1 an et demi et travaille maintenant à House to Home. Les détails avec notre journaliste Marie Hillès.
Je suis dans une ancienne épicerie. Sur les étagères, des vêtements, des jouets pour enfants et au fond de l'entrepôt, des sofas, des lits et toute autre chose essentielle pour rappeler une maison, un foyer. C'est l'organisme House to Home qui offre ces objets usagés aux demandeurs d'asile arrivés à Ottawa. Hélène Hubert travaille ici depuis 1 an. Elle explique comment se passe l'accueil des familles.
Ils fixent un rendez-vous, ils viennent sur place et ils font le tour. Et tous les items qu'ils veulent savoir, ils vont mettre une étiquette dessus, ils mettent leur initiale. Et ensuite, les bénévoles vont assembler tout ce qu'ils ont besoin et on va l'apporter à la maison. C'est gratuit pour tout le monde.
La gérante de l'entrepôt, Susie Shore Sauvé, a créé l'organisme en automne 2020 dans son garage. L'entrepôt actuel est de 10 000 pieds carrés. Aujourd'hui, Susie aide environ 500 familles de réfugiés à s'installer dans leur nouveau foyer.
My dad and I were having a conversation one day as someone messaged me out of the blue that somebody needed a dresser. So I went to the site and
j'étais en train de discuter avec mon père quand quelqu'un m'a envoyé un message qu'il avait besoin d'un dressing. Je suis allée sur le site dont on m'avait parlé, c'était pour des familles de réfugiés. Mon père me disait, j'aurais aimé avoir ça, un dressing ou même un lit quand je suis arrivée de Russie. Mon père est mort 4 jours après. Le projet est resté avec moi. Et il a grandi depuis.
My dad passed away 4 days after that, so it really stuck with me and the project grew from there.
Une famille arrive pour son rendez-vous, ils sont 3. Ils sont arrivés il y a 1 mois de l'Algérie, uniquement avec leur bagage.
Notre maison est vide. Voilà, on n'a rien.
Parce que notre maison est vide et ce qu'on peut acheter en dehors d'ici sont assez chers pour nous. Parce que notre monnaie dans notre pays n'est pas équivalente à celle du Canada.
On n'a pas assez de budget pour remplir notre maison. Donc on nous a orienté vers House to Home. Et on a pris ce qu'il nous faut aujourd'hui. Et je trouve que ça nous aide beaucoup. Merci à Susie, merci à toute l'équipe. Parce qu'elle nous a donné un rendez-vous très, très proche.
Très proche, elle nous a, elle nous a donné un rendez-vous très proche. Oui. Et grâce à ce lieu, alors aujourd'hui, on va avoir une maison remplie.
Voilà.
Et qu'est-ce que vous ressentez par rapport à ça?
Ah, je suis très, trop contente.
Je suis très
d'avoir
contente
une
aussi.
Maison vide, ça pousse vers une dépression.
Et en quoi ça va vous aider, cette aide de la part de Suzy?
Pour avoir une installation meilleure.
Oui.
Voilà.
Et surtout pour faire des économies.
Voilà.
Parce qu'on en a besoin pour le moment. Vu que nos diplômes ne peuvent pas être reconnus pour le moment.
L'entrepôt devait fermer définitivement printemps 2023. Le bail a été renouvelé pour un an. Et même si aujourd'hui la gérante peut souffler un peu, elle réfléchit déjà à comment trouver une solution permanente.
C'était un reportage de Marie Hillès pour IGL à Ottawa.
Bonjour à tous, ici Pénélope Clermont à Tête-à-la-Baleine, en Basse-Côte-Nord. Vous écoutez Point de vue.
Marie qui s'est aussi déplacée au Muséoparc de Vanier, où l'on a la semaine dernière procédé à l'inauguration officielle de la nouvelle cabane à sucre Vanier, ceci dans le cadre du Festival des sucres, et tout le gratin y était, dont le maire d'Ottawa, Mark Sutcliffe. Personne ne voulait rater la chance de se sucrer le bec. L'ancienne cabane à sucre avait été complètement rasée par un incendie en août 2020 et fermée ensuite. Située à moins de 5 km du centre-ville d'Ottawa, elle est aussi l'une des rares cabanes à sucre encore actives en milieu urbain. Marie Hillès a tendu son micro à Madeleine Meilleur, directrice générale du Muséoparc Vanier, de même qu'à un cuisinier des sucres.
Je me sens tellement fébrile, je me sens tellement contente, je me sens... Les gens attendaient cette journée depuis si longtemps, l'ouverture de la cabane. Hein. On a perdu notre cabane en 2020, août 2020, on est en 2023, en mars 2023. Alors, les gens me demandaient régulièrement, là, quand est-ce qu'elle va ouvrir la cabane? Ça représente l'histoire, parce que cette érablière-là existe depuis très longtemps. La première cabane à sucre a été construite en 1939. Ça représente venir réfléchir, venir se promener dans la forêt, venir entre amis au déjeuner des sucres ou prendre un repas à la cabane à sucre. Ça représente aussi pour la communauté, pour les gens d'affaires, venir tenir leur réunion d'affaires ici. Alors, ça représente beaucoup.
L'ancienne cabane a brûlé en août 2020. La reconstruction de la cabane a commencé 2 ans après, en avril 2022. Madame Meilleur me parle du financement de cette nouvelle cabane à sucre.
Le financement, je dois vous dire que la communauté a été généreuse, mais nos gouvernements ont été très généreux. L'assurance a payé une partie, mais on a agrandi la cabane. Alors, c'est un projet qui a coûté un demi-million de plus que prévu. Alors, les gouvernements ont été très généreux, spécialement la ville d'Ottawa. On a eu des dons personnels, des dons privés, c'est-à-dire... Alors, la construction, ça a été beaucoup ralenti, mais c'est pas différent des autres constructions qu'il y a eu. La ville me dit, bien, Madeleine, t'es ambitieuse parce que nous autres, tous nos projets ont été retardés de 1 an et demi, 2 ans. Alors, et notre projet, nous, toutes les embûches qu'un projet immobilier comme le nôtre peuvent passer au travers, nous, on les a tous eus. Mais on a trouvé des... On avait un contracteur excellent et on trouvait toujours des solutions novatrices et qui respectaient notre budget.
Durant cette semaine de festivités, il y aura beaucoup de programmes et aussi des journées scolaires. Durant ces journées, les enfants pourront découvrir le chien à traîneau, une promenade dans l'érablière et ils vont aussi pouvoir assister à un spectacle musical. Mario Bellil travaille au Muséoparc depuis 2019 comme éducateur et gestionnaire de la programmation.
Pour certains, c'est la maison des ours. Pour d'autres, c'est la cabane à Mario. C'est un point de rencontre, ça, c'est sûr et certain. C'est un lieu magique. C'est un lieu enchanteur. C'est un lieu merveilleux pour beaucoup d'enfants. Et puis, c'est un bel endroit là pour se sucrer le bec. C'est sûr qu'il y a de l'émerveillement. On est extrêmement chanceux. C'est un joyau d'avoir ça ici à Ottawa. Une forêt urbaine, une cabane à sucre en milieu urbain. C'est à mon sens, la seule et unique. Si vous trouvez de l'information contraire, je vais changer mon histoire. Mais depuis 2019, c'est ce que je raconte, la seule et unique cabane à sucre en milieu urbain en Amérique du Nord, au monde. Donc, c'est vraiment unique. On est vraiment chanceux d'avoir ça. Les enfants sont émerveillés de voir cette cabane à sucre-là, de voir la transformation. Sont émerveillés de voir qu'on peut récolter l'eau d'érable année après année, en faire des produits sucrés, qu'on n'a pas besoin de raser la forêt et en faire des copeaux comme avec la canne à sucre ou la betterave.
Combien d'eau d'érable faut-il pour produire un litre de sirop? Voici la réponse par Marc Mador, acériculteur au Muséo Parc Vanier.
Donc, on entaille au début du printemps, fin de l'hiver, on entaille. Et puis, quand c'est doux le jour, gelé un peu le soir, donc sur l'échelle Celsius, moins 5 plus 5, les érables coulent. Et puis là, ça prend environ 40 litres de sève pour faire un litre de sirop. Ça dépend toujours du montant de sucre qui est dans la sève, là. Fait que tout ça, on mesure ça. Fait que le montant de sucre varie dans la sève entre 2 briques puis 4-5 briques, quelque chose de même. Briques, c'est une échelle qu'on se sert pour mesurer le sucre. Fait que là, naturellement, le plus sucré qu'il est, que la sève est, le moins qu'on a besoin d'évaporer pour faire du sirop.
Qu'est-ce qui vous passionne dans votre métier?
Le fun de produire quelque chose naturel. C'est ça qui est le fun. C'est on prend de la sève qui est naturelle, puis on fait un produit avec qui est bon, et puis qui est naturel. Il n'y a aucun produit de rajouté. Je trouve ça absolument fantastique, là. C'est le fun. C'est une passion que j'ai, que je vais garder aussi longtemps que je peux, là, continuer à faire.
C'était un reportage de Marie Hillès pour IGL à Ottawa.
Bonjour, ici Sébastien Beltrand à Halifax. Vous écoutez Point de vue, suivez-nous sur Twitter @CanadaLJI et écoutez nos reportages sur canada-info.ca.
On se réjouit à la cabane à sucre, mais on a la mine basse au Nouveau-Brunswick où les francophones viennent d'essuyer un autre coup dur de la part du gouvernement provincial de Blaine Higgs. Higgs qui compte déposer le projet de loi C-37 qui prévoit, entre autres choses, de mettre fin à l'obligation de la province de réviser la loi sur les langues officielles tous les 10 ans et les consultations publiques qui en découlent. Cette mesure est considérée comme un recul par les partis d'opposition libéraux et verts, de même que par la commissaire aux langues officielles du Nouveau-Brunswick, Shirley MacLean. Un projet de loi qui a aussi soulevé l'ire de la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick, SANB, qui craint que l'abolition de cette obligation ne mine les droits linguistiques de la minorité francophone. Selon la SANB, le projet de loi ne répond pas aux désirs exprimés par la communauté acadienne et francophone. Le gouvernement de Blaine Higgs est majoritaire à l'Assemblée législative néo-brunswickoise. Le projet de loi C-37 a peu de chances de tomber. Un projet de loi qui a aussi été vertement critiqué par le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, qui était de passage à Moncton et qui a déclaré « Malheureusement, on voit trop souvent que ce sont les gouvernements conservateurs à travers le pays qui s'attaquent aux langues officielles en milieu minoritaire ». Le gouvernement Higgs réplique que la création du secrétariat aux langues officielles permettra de procéder à ces révisions de manière continue et non pas seulement une fois chaque 10 ans. Alexandre Cédric Doucet, président de la SANB, est au micro de Sébastien Caron à Fredericton au Nouveau-Brunswick.
Écoute, une très grande déception, c'est certain qu'avec le présent gouvernement que nous avons, nos attentes étaient un peu plus basses qu'à l'habitude, mais on ne s'était jamais imaginé un projet de loi épais de 4 pages et qui, somme toute, est très clairement un manque de vision de la part du gouvernement au niveau des 2 langues officielles.
C'est quoi qui est le plus décevant? C'est la taille du projet ou c'est le fait que finalement il n'y a pas grand-chose dedans?
La taille du projet de loi, mais aussi il y a des inquiétudes par rapport à la manière qu'ils vont créer le secrétariat des langues officielles. Par exemple, nous autres, on a toujours demandé que le secrétariat soit le plus proche possible du bureau du premier ministre, puisque le premier ministre est, selon la loi sur les langues officielles, la personne qui doit être responsable de la mise en application de la loi. Donc, maintenant, ils l'ont mis dans un autre ministère qui est beaucoup plus loin que ce que nous avons demandé du premier ministre. Donc, la mise en application de la loi, on sera encore très loin de voir des résultats très concrets. Et par la suite aussi, il y a eu des ajouts par rapport à la commissaire aux langues officielles qui est très inquiétant, là, somme toute.
Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut espérer de la part du gouvernement et des gens qui pourraient intervenir à l'intérieur?
Ce qu'on peut s'attendre, c'est qu'au moins il y a un débat démocratique à l'intérieur de la Chambre avec les partis d'opposition et que le gouvernement est ouvert à recevoir des amendements en bonne et due forme. Tu sais, le gouvernement provincial a quand même commandé un rapport indépendant de la juge Yvette Finn et John McLaughlin, deux commissaires qui ont été embauchés. Et le gouvernement, avec son projet de loi, ne suit aucune recommandation de ce rapport-là. Donc, après un moment, on peut se questionner sur le pourquoi que le gouvernement commande des études et ne suit pas les recommandations.
Est-ce qu'on a une idée des amendements qui devraient être déposés déjà ou pas du tout?
Écoutez, c'est certain qu'on a une bonne idée des amendements qui devraient être ajoutés, puisque la communauté a été assez claire auprès de ses demandes. On a eu beaucoup de rencontres politiques avec le gouvernement, le cabinet ministériel, les membres du caucus, les partis d'opposition, et le projet de loi C-37 n'est pas à la hauteur des demandes.
On sait que depuis quelques mois, c'est vraiment très très tendu entre la communauté acadienne francophone du Nouveau-Brunswick et le gouvernement Higgs. Il y a eu des mouvements de manifestations à Fredericton auprès de l'Assemblée. Est-ce qu'il y a des choses qui vont s'organiser dans les jours ou semaines à venir pour essayer de faire pencher la balance?
Toutes les options sont toujours sur la table pour avancer les droits de la communauté acadienne et francophone. Mais on est toujours ouvert à tendre la main. Malheureusement, ce qu'on sent, c'est que la main de l'autre côté, qui est le premier ministre, il n'y a pas de réelle volonté de l'attendre. C'est pas comme si que depuis 2016, depuis l'élection de M. Higgs à la chefferie du Parti progressiste conservateur, il y a eu une réelle volonté de sa part de se rapprocher et de bâtir des ponts avec la communauté acadienne et francophone. Et ça, c'est très triste dans la seule province officiellement bilingue du Canada.
Si demain le gouvernement faisait un geste, à partir de quel moment, à partir de quelle ampleur on considérerait que c'est quelque chose d'utile et pas juste de la com?
Tout geste concret pour s'assurer que la communauté acadienne et francophone a les outils nécessaires pour combattre l'assimilation sera applaudi par la SNB.
Bonjour, ici Judy Desalliers au Nouveau-Brunswick. Vous écoutez Point de vue.
Dirigeons-nous vers l'ouest où la Fédération des aînés franco-albertains, la FAFA, et la Fondation franco-albertaine offrent cette année un programme d'aide financière aux personnes de 50 ans et plus qui souhaitent participer à l'initiative Plaisir d'apprendre. Ce programme mis sur pied en 2006 offre aux francophones de 50 ans et plus, on l'a dit, une semaine entière de cours portant sur des sujets très variés, qui vont de la politique au droit familial, mais aussi une série d'activités, un programme qui permet de briser l'isolement vécu par certains. Plaisir d'apprendre sera d'ailleurs au calendrier entre les 8 et 12 mai prochains. Mais tous n'ont pas les moyens de défrayer les coûts d'une semaine complète d'activités. Pour gonfler les rangs des apprentis au plaisir d'apprendre, la Fédération des aînés franco-albertains a mis sur pied un programme de mentorat, de sponsorat, si on veut, et propose aux organismes d'acheter des places, lesquelles peuvent ensuite être redistribuées dans leur réseau aux francophones de 50 ans et plus. Oxane Guyon, gestionnaire de projet et de programmation à la Fédération des aînés franco-albertains, est ici reçue par Éline Coulou.
Bonjour Oxane.
Bonjour, merci de me recevoir.
Ben Oxane, ce projet sponsorat, explique-nous un peu, qu'est-ce que c'est?
Cette année, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'enjeux économiques que rencontraient les aînés de notre communauté. Donc en fait, on voudrait vraiment soutenir le bien-être financier des aînés. Donc on a fait plusieurs démarches dans ce sens. On a fait une première démarche qui a été de contacter la Fondation franco-albertaine pour voir si on pouvait débloquer une bourse pour aider les aînés qui n'avaient pas les moyens financiers de participer au plaisir d'apprendre, parce que c'est vrai que c'est quand même c'est un événement du coup qui a lieu sur une semaine, donc qui représente quand même un sacré coup. Et pour continuer dans cette perspective, on s'est dit qu'on allait pousser un peu la démarche en demandant à d'autres organismes de la communauté pour offrir des places en fait aux personnes qui d'elles-mêmes vont pas forcément mettre le budget dans les activités culturelles et sociales. Donc en fait, ce qu'on a fait avec cette proposition de sponsorat, c'est de proposer aux organismes d'acheter des places pour ensuite les redistribuer à des personnes de leur réseau. Et donc s'ils achètent une place, la FAFA offre une place. Les aînés, ils ont vraiment soif d'apprendre, de s'impliquer, de continuer à se tenir au courant de ce qui se passe. Et puis c'est vrai que l'éducation, elle a quand même bien changé depuis l'époque où eux, ils ont fait des études. Et maintenant, il y a des nouvelles thématiques, des nouveaux sujets, des nouvelles façons aussi d'apprendre, avec le numérique par exemple. Donc c'est ouais, quelque chose qu'ils aiment.
Oui, justement, parlant des nouveaux sujets, concrètement, qu'est-ce que vous leur offrez comme cours, par exemple ?
Alors, on essaye d'être le plus diversifié possible pour plaire à tout le monde et apporter un peu une variété de sujets, quoi. Par exemple, on va avoir de l'histoire. En histoire, notamment, on va parler on a un intervenant qui va parler des dictatures modernes. Donc, justement, c'est vraiment une thématique d'actualité. Donc, c'est vraiment des thématiques d'actualité. On va aussi avoir des sciences, on va avoir aussi, on va avoir des cours d'introduction au développement durable donnés par une étudiante qui fait partie du Sustainability Council de UFA, du Campus Nord, mais qui est francophone bien sûr. Donc ça va vraiment être chouette, ça va être des capsules de vulgarisation des enjeux écologiques. Donc ça c'est aussi un nouveau sujet. Sinon on va avoir de l'anthropologie, de la politique.
Et si je comprends bien, donc vous faites intervenir des personnes qualifiées pour faire ces cours-là ?
C'est ça. Donc, y a beaucoup de professeurs titulaires du campus Saint-Jean qui vont participer. Et puis, on essaye aussi d'amener un peu de diversité par rapport aux autres années, parce que comme c'est un événement qui revient chaque année, on ne voudrait pas proposer chaque année les mêmes cours, les mêmes intervenants. Donc, on essaye de diversifier un peu en recherchant de nouveaux contacts. On a aussi rejoint un avocat qui va pouvoir donner des cours de droit. Donc voilà, on essaye d'amener aussi un peu de nouveautés dans la communauté francophone.
Et j'imagine que ça doit faire du bien aux aînés, ces genres d'initiatives.
J'espère du moins qu'ils sont contents et qu'ils sont fiers aussi du travail fait par la FAFA, parce qu'on essaye vraiment de répondre à leurs besoins, d'être à leur écoute et de leur proposer des activités qui permettent de rompre avec l'isolement social. Et je pense que c'est vraiment un besoin qui s'est accentué avec la pandémie, de répondre à leur envie de continuer à apprendre, de se rencontrer aussi, parce que c'est vrai que c'est pas que un événement pédagogique, c'est aussi un événement social où ils se retrouvent tous, parce que c'est un événement qui touche plusieurs régions. On a des membres de Calgary qui rejoignent Edmonton, donc ils sont toujours contents de se retrouver.
Coup de chapeau. Oksane Guyon, je rappelle, vous êtes gestionnaire de projets et des programmations à la Fédération des aînés franco-albertains. Bonne suite à vous.
Merci beaucoup de m'avoir reçu. Bonne journée.
C'était avec Eline Koulou, journaliste pour IGL.
Et en terminant, les touristes de l'île du Cap-Breton à la recherche des plus beaux joyaux de la région acadienne de Chéticamp pourront sous peu feuilleter le tout nouveau Guide du visiteur 2023 élaboré par la Société Saint-Pierre de Chéticamp. Lisette Bourgeois, directrice générale de la Société Saint-Pierre, précise que le guide présente les attraits incontournables de la région et bien évidemment des renseignements importants sur les entreprises qui s'y déploient et les événements qui s'y tiennent. Le guide, aussi produit en format numérique, sera distribué dès le mois d'avril dans les commerces locaux et les centres d'information touristique. Daniel Aucoin est en Nouvelle-Écosse en compagnie de Lisette Bourgeois.
De plus en plus, on voit que les guides toutes les informations touristiques sont en ligne seulement. Puis, à notre avis, il y a encore une population qui cherche une copie papier dans leurs mains pour pouvoir voir ce qu'ils aimeraient faire quand ils sont en visite ici à Chéticamp. Puis c'est impressionnant, on en a fait comme jusqu'à 30 000 copies par an. Puis comme à Port Hastings, par exemple, au bureau d'information de la province, c'est incroyable les boîtes et les boîtes de guides qu'ils ont distribuées à des gens qui vont faire le tour du Cabot Trail. Alors, ça a valu la peine pendant les années.
Parle-nous un peu du travail que ça demande, la préparation du guide des visiteurs à chaque année.
Aussitôt qu'un guide sort, on est déjà en train de penser au prochain. Par exemple, si un photographe de la région sort avec une belle photo, on va la mettre de côté pour possiblement l'utiliser la prochaine année. Rendu à l'automne, on avise les gens qu'on décide premièrement qu'on va reproduire le guide la prochaine année. Puis là, pendant les mois d'hiver, on contacte les gens qui ont acheté des annonces et n'importe qui veut acheter des annonces, on sort l'information du guide. Puis là, par la suite, c'est le travail, préparer les annonces, recueillir toute l'information, les photos et préparer, faire une coquille de quoi ce que le guide pourrait ressembler. Alors, ça demande des semaines de travail.
En gros, qu'est-ce que les visiteurs peuvent retrouver dans le guide des visiteurs?
On a le pratique, là, où ce qu'ils vont loger, ce qu'ils vont manger, tous les services qu'il y a dans la communauté qu'on peut retrouver dans le guide. Puis il y a aussi le programme de Racine et Bottine, le programme du Festival de l'Escouade, qu'est-ce qui se passe pour la fête du Canada le 15 août. Fait que les détails de ces activités-là sont là dans le guide aussi, dans les pages avec les annonces.
Comment important est l'appui des entreprises touristiques de la région envers le projet?
100%. Si c'était pas d'eux, on pourrait pas publier le guide. C'est quand même un projet qui coûte environ 13 à 15 000 $. Alors, la vente d'annonces est le seul moyen qu'on a pour pouvoir payer pour faire le guide.
Comment on fait la distribution du guide des visiteurs?
Auparavant, la province avait un service de distribution. C'était bien. On pouvait dire à la province, aller emmener à l'aéroport, à Halifax, par exemple, à Yarmouth. Mm-hmm. On pouvait choisir où ce qu'on voulait nos guides. Ça n'existe pas. Puis pendant la pandémie, encore bien moins. Mais ça, ce qu'on fait, c'est que les gens nous contactent, par exemple, dans les années où on a eu Halifax au waterfront, à l'aéroport, même à Kentville, dans la vallée, ils cherchent l'information en français pour quand les gens veulent venir au Cap-Breton. Et notre point important, nous autres, au Cap-Breton, c'est à Port Hastings et à Sydney, au bureau d'information de Destination Cape Breton, qui distribue bien nos guides.
Alors, l'édition 2023, ça sera prêt prochainement?
Oui, au mois d'avril, on s'attend de voir le guide de finaliser. Il est hors de nos mains. Il est maintenant dans les mains du graphisme René Baba, qui va nous présenter une ébauche. Puis là, on le regarde comme il faut, on fait les corrections et ça s'envoie à l'imprimeur probablement à la mi-avril pour distribution au tout début du mois de mai.
Ça sera également disponible en ligne cette année?
Oui. Bon, on l'a fait, ça fait quelques années. Si on va sur chitikan.ca, on peut aller télécharger le guide complet. Sur nos téléphones, sur nos tablettes, pour si les gens veulent le regarder en ligne, mais il y a toujours la copie papier pour le moment.
Alors, merci d'être venu nous parler de ce beau projet, le guide des visiteurs pour la région de Chétiquan. Bonne chance!
Merci beaucoup.
Voilà, c'est déjà tout pour nous cette semaine. Merci à nos collaborateurs, Tris, Éline Coulou, Marie-Hélène, Sébastien Caron et Daniel Aucoin, coordonnateur national Stéphane Bénard. Ici Boris Chassagne à l'animation et à la réalisation. Point de vue vous est présenté par le Fonds canadien de la radio communautaire à Ottawa avec la précieuse collaboration de votre radio locale. N'oubliez pas que le site de nouvelles canada-info.ca renferme des centaines de petits bijoux d'informations en français, en anglais et un peu en espagnol. Nos journalistes sont postés à travers le pays. Retrouvez-les donc en ligne, écoutez leur reportage. Merci d'avoir été là. Restez à l'écoute de l'émission qui suit. À la semaine prochaine. Ciao!
Canada LJI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.